Si on essaie d'imaginer une armée entière qui abandonne littéralement la lumière du jour, qui enterre ses usines, ses hôpitaux, ses centres de commandement sous la terre, juste pour survivre, ou alors une intelligence artificielle qui écrit un poème sur le deuil.
Ouais, un poème qui est d'une beauté à vous arracher des larmes.
C'est ça, alors que la machine, bah, elle n'a jamais ressenti la moindre once de douleur. Et le plus dingue, c'est que ce n'est pas de la science-fiction.
Non, c'est notre réalité actuelle.
Exactement. On explore aujourd'hui un monde où les anciennes règles se sont juste évaporées. D'accord, décortiquons un peu tout ça. On a devant nous une pile vraiment fascinante d'articles. Ça vient de la revue iDébat, le numéro 28, qui date du 6 juin 2026.
Une très belle sélection d'ailleurs.
Carrément. Et l'objectif de cette exploration approfondie aujourd'hui, c'est de tirer sur un fil rouge. Un fil qui est invisible, mais qui relie absolument toutes ces sources. C'est la métamorphose brutale de notre monde face à la complexité. En lisant ça, on a vraiment l'impression de regarder la matrice de notre société se reconfigurer en direct.
Ce qui est fascinant ici, c'est que la clé de lecture pour comprendre tous ces bouleversements, ben ça tient en une distinction très simple, le passage du compliqué au complexe.
Et on confond souvent les deux, non?
Tout le temps. En fait, un système compliqué, c'est comme un avion de ligne. C'est plein de pièces, des kilomètres de câbles, d'accord. Mais si vous avez le manuel, vous pouvez le démonter, trouver la panne et la réparer. C'est prévisible.
Ok, donc il y a une logique mécanique.
Voilà. Le complexe, par contre, c'est une forêt tropicale. Tout est organiquement lié. Si on touche à une petite espèce d'insecte, ben on peut déclencher l'effondrement d'un écosystème entier à l'autre bout de la forêt.
Ah ouais, l'effet papillon, quoi.
C'est exactement ça. Et le vrai drame que soulèvent toutes ces sources, c'est que nos gouvernements, nos institutions, essayent désespérément de gérer une forêt tropicale avec un manuel de réparation d'avion.
Ah, c'est une super image. Et pour voir à quel point ce manuel est devenu obsolète, faut juste regarder comment les nations se font la guerre aujourd'hui. C'est l'aspect le plus brut de cette transformation.
La guerre en surface, c'est fini.
C'est ça, la surface de la Terre est littéralement devenue trop dangereuse. C'est ce qui ressort de l'analyse géopolitique de Mustapha Seïmi dans la revue. Quand on lit son texte, on a l'impression d'assister à une guerre de fourmilières géantes. Donc en gros, les armées utilisent la croûte terrestre comme un bouclier.
Ouais, en fait, l'auteur utilise une analogie historique qui est hyper précise. Il dit que c'est l'équivalent terrestre de l'avènement des sous-marins.
Oh, l'arrivée des sous-marins dans la guerre navale.
Voilà. Avant le sous-marin, la domination des mers, ça se jouait en surface. On voyait les immenses cuirassés. C'était le règne du plus gros bateau. Et puis soudain, bam! Une technologie invisible sous l'eau a rendu ces énormes navires en acier complètement vulnérables.
Et donc, la surface de la Terre subit le même sort en ce moment.
C'est ça. Entre les drones reliés par fibre optique qui contournent le brouillage, l'imagerie thermique, l'artillerie guidée par satellite. La règle est devenue très binaire. Si on est à la surface, on est détecté, et si on est détecté, on est détruit.
C'est ce qui explique cette folie logistique en Ukraine. On voit des usines de production de drones entières qui s'installent dans des tranchées. Enfin, on creuse plus juste pour éviter les balles. Là, on creuse pour enterrer l'industrie de guerre.
Et c'est global, hein? L'article détaille comment le Hamas a créé ce réseau souterrain de dingue à Gaza, comment le Hezbollah a enfoui ses infrastructures au Liban.
Ah oui, et la Chine ou l'Iran, pareil.
Exactement. Ils cachent leurs arsenaux balistiques et nucléaires dans des montagnes depuis des années. Le vrai champ de bataille, c'est plus la plaine, c'est la profondeur géologique.
C'est fou. Alors, pendant que ce pouvoir militaire physique, le fameux hard power, s'enterre, ben la notion même de puissance mute, elle se dématérialise. Et ça se voit très bien dans l'analyse de Driss Koresh sur les conflits contemporains.
Ouais, le but, c'est plus d'anéantir l'ennemi.
C'est ça, l'objectif maintenant, c'est le containment, l'endiguement. On le voit entre les États-Unis et l'Iran, ou même en Europe de l'Est, avec cette lente guerre d'usure.
Bah, l'endiguement, c'est la stratégie parfaite pour un monde complexe. Si on détruit l'adversaire, on crée un vide chaotique. Et le chaos, bah, c'est imprévisible. Donc on gère son influence.
Et le Moyen-Orient reste le théâtre ultime pour ça.
Absolument. Koraïch nous dit bien que c'est pas juste une grande station-service, c'est un carrefour de civilisation. D'ailleurs, il raconte une anecdote géniale. Au XVIIIe siècle, l'impératrice Catherine II de Russie disait déjà que la complexité de cette région en faisait le centre de gravité du monde.
Ah ouais, donc c'est pas nouveau.
Non, mais aujourd'hui, s'imposer, c'est déployer du soft power. Imposer son récit, se rendre attractif, être crédible diplomatiquement. C'est ça la vraie puissance.
Et justement, sur cette idée de crédibilité et de récit, il y a un document dans la revue qui m'a vraiment interpellée. C'est une plongée dans des archives diplomatiques par Mohamed Oubi.
Ah oui, l'archive maroco-algérienne.
C'est ça. Et là, je tiens vraiment à faire une pause et à être très claire sur notre démarche pour ceux qui nous écoutent. En parlant de cette archive de 1978, on l'analyse uniquement comme une étude de cas sur la mécanique du droit international.
Tout à fait.
On ne prend absolument aucun parti sur les questions territoriales contemporaines. Notre seul rôle, c'est d'observer comment le Maroc, à cette époque, a utilisé la bureaucratie de l'ONU pour fabriquer un soft power juridique.
C'est la bonne grille de lecture, oui. L'archive, elle date du 1er octobre 1978. On y trouve une lettre d'Abdelatif Filali à l'ONU et un message du roi Hassan II à Ouaribou Médiane. Ça documente une incursion armée sur le territoire marocain.
Mais au-delà de l'incident, c'est la méthode qui est intéressante, non ?
Exactement. Les diplomates marocains se sont basés sur des accords de frontières très précis de 1972 et 1973. L'idée, c'était de figer les faits dans le marbre de l'ONU pour engager la responsabilité de l'adversaire.
C'est un peu ce que les juristes appellent laisser une trace papier. On construit un mur de documents pour se protéger.
C'est une vraie architecture de la preuve. L'article rappelle d'ailleurs que cette rigueur documentaire, elle existait même avant l'avis de la Cour internationale de justice de 1975 sur le Sahara.
Ah oui, l'avis sur les liens historiques.
Voilà. Et l'archive de 78 montre que l'influence, ça se gagne pas juste avec de grandes déclarations, ça se gagne au quotidien, en documentant tout de manière chirurgicale à l'ONU.
Et le mot « architecture » que vous venez d'utiliser, c'est vraiment le pivot de notre réflexion. Parce que pour projeter cette influence à l'extérieur, il faut que la maison tienne debout de l'intérieur.
C'est sûr, on ne peut pas exporter de la puissance si on est fragmenté chez soi.
C'est exactement le paradoxe de la gouvernance actuelle. Si on prend la stratégie africaine du Maroc, qu'Adnan Debar analyse, il parle d'un truc fascinant. Passer d'une diplomatie de présence à une diplomatie d'architecture. C'est là que ça devient vraiment intéressant.
La nuance est super importante. La présence, c'est l'étape 1. On ouvre des ambassades, on signe des papiers, on serre des mains, on est là, quoi.
Ok, le côté relationnel.
Ouais. Mais l'architecture, c'est le niveau des puissances mondiales. C'est poser les tuyaux de l'économie. La Chine le fait avec ses corridors, l'Europe avec ses normes écologiques, les États-Unis avec la tech.
Et le Maroc dans tout ça ?
Eh bien, Debar dit que le Maroc doit utiliser ses banques, ses ports, son influence religieuse pour structurer l'Afrique. Pas juste être présent, mais organiser l'espace.
Sauf que la théorie, elle se prend le mur de la réalité financière. Pour être un architecte logistique, faut des outils cohérents. Et Aziz Daouda soulève l'exemple de la Royal Air Maroc, la RAM. C'est hyper révélateur.
Ah oui, la question des vols intérieurs.
Voilà. D'un côté, l'État veut être ce fameux hub africain. Et de l'autre, sa propre compagnie aérienne annule des vols vers des capitales africaines et même vers Ouarzazate, Er Rachidia ou Zagora.
Et pourquoi ?
Pour une logique de rentabilité immédiate.
C'est ça. On sacrifie le long terme pour des économies à court terme. Et on en revient au manuel de l'avant compliqué appliqué à la forêt complexe. Le comptable y voit qu'un vol vers Zagora n'est pas rentable sur le papier. Hop, il le supprime. Pour lui, le problème est réglé.
Mais dans un système complexe, ça crée des ondes de choc.
Totalement. Daouda l'explique très bien. On enclave les territoires. Imaginez un investisseur qui veut mettre des millions dans le solaire à Ouarzazate. S'il ne peut pas y aller en avion facilement, il va investir à l'heure.
On gratte quelques milliers d'euros de kérosène, mais on perd des milliards en investissement.
Exactement. Et au niveau continental, la RAM risque de perdre son statut de compagnie des fers marocains. On lâche un outil souverain pour une ligne Excel.
Mais du coup, comment c'est possible d'être aussi aveugle ? Enfin, on veut la puissance géopolitique, mais on refuse de payer pour l'infrastructure.
C'est pas un manque d'information, hein. Debar montre bien, en citant les rapports de la Banque mondiale, que le Maroc, comme beaucoup d'États, fait d'excellents diagnostics.
On sait ce qui va pas.
On sait très bien. La Banque mondiale pointe les rentes, les soucis du secteur privé. Le vrai problème, c'est l'incapacité systémique à arbitrer.
À prendre des décisions difficiles, en gros.
Oui. Le système politique dilue la responsabilité. L'article donne l'exemple du ministère de l'Investissement et de la Convergence, géré par Karim Zidane. L'idée est belle, hein ?
Mais dans les faits...
Dans les faits, comment un ministre transversal peut-il imposer des coupes budgétaires à ses collègues ministres ? C'est impossible. Seul le chef du gouvernement a l'autorité pour trancher et forcer cette convergence.
Et ça nous amène pile à l'éditorial très direct d'Aziz Bouceta sur le chef du gouvernement, Aziz Akanouche. Et là encore, petite précision pour l'audience, on rapporte simplement l'analyse de l'éditorialiste. On ne valide ni n'invalide cette critique politique. On observe juste l'argument.
C'est important de le préciser.
Donc, Buscetta décrit une communication au sommet de l'État qui est complètement déconnectée. Il parle d'une récente vidéo du chef de l'exécutif comme d'un pur monologue. Il va même jusqu'à titrer, un peu cyniquement, « Ainsi parler à Canustra ».
L'arrêt Fanitch n'est pas là pour faire joli. Ça souligne vraiment l'isolement du pouvoir. L'auteur pointe qu'il n'y a aucun débat contradictoire. Le dirigeant donne ses chiffres macroéconomiques et le pays doit juste écouter.
Ce qui est super intéressant, c'est qu'il cite l'homme d'affaires Karim Tazi. Tazi compare cette gestion à celle d'un directoire d'entreprise privée. Et c'est ça qui coince.
Gérer un État comme une boîte privée, oui.
Voilà. On est dans une obligation de moyens, pas de résultats. Le gouvernement dit « Regardez, on a mis tant de milliards ici, mais les gens, eux, y subissent toujours l'inflation, la crise du pouvoir d'achat. On les traite comme des actionnaires à qui on lit un bilan comptable. »
Bah, ça montre bien l'effondrement de ce modèle managérial. Quand on traite l'État comme un système compliqué mais prévisible, on croit qu'un bon PowerPoint va régler les crises sociales. Sauf que la société est complexe. Les gens ont peur, ils ont faim, ils ont besoin de sens.
Mais si on remonte à la racine, si nos dirigeants réfléchissent tous comme ça, c'est peut-être parce que l'école les a formatés pour. Et là, l'analyse d'Aziz Daouda sur l'éducation est géniale. J'ai vraiment eu l'impression qu'il disait qu'on traite le cerveau des enfants comme un disque dur.
Ah, c'est totalement l'idée.
On leur demande de stocker des fichiers, des dates, des formules, des noms. Mais franchement, avec les smartphones, avoir un disque dur interne, c'est inutile. Le cerveau, il devrait plutôt être un processeur, non?
Exactement. Il doit analyser la donnée, la critiquer. L'école doit faire sa révolution copernicienne. Le but, c'est plus d'ingurgiter du savoir figé, c'est d'apprendre à apprendre.
Pour des métiers qui n'existent même pas encore.
Et l'article met le doigt sur un gros blocage, le rapport à l'erreur. Dans un monde compliqué, l'erreur, c'est une panne. Donc, on la punit avec un zéro pointé. Mais dans un monde complexe, faire des erreurs, c'est la seule façon d'itérer et de trouver des solutions nouvelles.
Et si on relit tout ça, c'est vraiment le moment de parler du vibrant hommage du docteur Azzedine Benani à Edgar Morin. Ce monsieur est mort fin mai 2026 à 104 ans, c'est quand même incroyable.
Une longévité intellectuelle hallucinante.
Et il nous laisse une œuvre immense sur, justement, la pensée complexe.
Morin, c'est un peu le phare de tout ce qu'on discute aujourd'hui. Il expliquait que face au chaos, notre réflexe cartésien, c'est de découper le problème en petits morceaux. Sauf que si on sépare tout, on détruit la réalité.
Et c'est cet oubli qui crée ce que Benani appelle le paradoxe de la productivité.
Ah, ce paradoxe, il est terrible.
Bam, la productivité s'effondre, plus rien ne marche, tout devient bureaucratique. Pourquoi ça fait ça?
Bah, à cause du facteur humain. Le logiciel, mathématiquement, il est parfait, il est compliqué. Mais on le balance au milieu d'un département avec des humains complexes. Des gens qui ont peur pour leur poste, des petites guerres d'ego, une culture d'entreprise.
Donc la grève prend pas.
Voilà. Le corps humain rejette l'outil. L'article utilise une métaphore marocaine magnifique, celle du Wald Mahalam, l'artisan traditionnel. Cet artisan, il sépare jamais son esprit de sa main. Son outil, c'est un bout de son identité.
Alors que la tech moderne veut séparer l'outil de la personne.
Exactement. Et c'est pour ça que ça coince.
D'accord. Mais posons la question qui fâche. Si les machines et les logiciels conquièrent tout ce qui est calcul, optimisation et même le code informatique, qu'est-ce qu'il nous reste à nous les humains?
C'est la question d'un million.
Et là, on arrive à l'ultime frontière avec Lassen Haddad, son texte sur l'intelligence artificielle et la littérature. Parce que l'IA fait plus juste des tableaux Excel, elle pond des poèmes sublimes et limite les grands auteurs.
Haddad se demande carrément si c'est la mort de l'écrivain.
Mais attendez, historiquement, on n'a pas déjà crié au loup mille fois? Quand Gutenberg a sorti l'imprimerie, les moines disaient que ça allait tuer l'âme du livre.
C'est vrai, et Haddad l'intègre très bien dans son raisonnement. La littérature, c'est une succession de crises. Quand Mallarmé a fait du vers libre, on a cru que la poésie était morte. Quand T.S. Eliot a cassé la chronologie narrative, pareil.
Et le texte cite Walter Benjamin aussi.
Oui, le philosophe des années 30. Lui, il flippait sur la perte de l'aura de l'œuvre d'art.
L'idée que si on imprime la Joconde à l'infini, elle perd son côté sacré.
Exactement. Et l'article cite même Rob Grillet, qui a enlevé toute émotion de ses romans pour juste faire des descriptions glaciales. Bref, à chaque fois, la littérature a survécu. Mais là, avec l'IA, c'est une rupture différente.
C'est plus juste une question de format.
Non. Haddad parle du danger de l'industrialisation du sens. L'IA, c'est une machine qui simule la conscience humaine. Et la différence donne le vertige.
Comment ça?
Si on demande à une IA d'écrire sur la perte d'un enfant, elle va avaler des milliers de textes tragiques, analyser les mots et recracher un poème mathématiquement parfait qui va vous faire pleurer.
Mais elle n'a rien vécu.
Rien du tout. Elle n'a jamais eu froid, Elle a jamais senti l'odeur d'un hôpital. Elle a jamais ressenti l'angoisse de la mort. Elle imite la forme de la souffrance, avec une virtuosité folle, mais c'est un masque posé sur du vide.
C'est glaçant, dit comme ça.
L'auteur est très clair. Pour écrire vraiment sur la condition humaine, faut être un corps mortel, condamné à disparaître.
C'est super troublant quand on y pense, si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de voir grâce à cette revue. On a commencé avec des armées cachées sous terre, on a vu des gouvernements et des compagnies aériennes paralysées par des tableaux Excel, l'urgence vitale de changer l'école pour naviguer dans l'incertitude, et on finit sur des machines capables de mimer le désespoir humain sans le comprendre.
Ça fait beaucoup à digérer.
Mais le message global est limpide. L'ère de la gestion compliquée et de l'accumulation mécanique, c'est fini. La seule issue, c'est d'apprendre à relier. Relier le militaire, l'éco, l'humain.
Et si on pousse cette idée de relier vers notre avenir futur, la réflexion sur l'IA amène une hypothèse vraiment folle, bien au-delà de la littérature.
Ah oui, laquelle ?
On entre dans un monde où produire du contenu parfait, optimisé et sans erreur, ça sera instantané et gratuit grâce aux machines. Donc, qu'est-ce qui va valoir de l'argent ? Qu'est-ce qui aura de la valeur ?
C'est vrai, ça.
Peut-être que tout ce qui fait notre humanité brute, nos doutes, nos idées illogiques, nos cicatrices, nos erreurs, tout ce que l'école classique et les algorithmes essaient de corriger, ça va devenir la denrée la plus rare au monde.
L'imperfection deviendrait une compétence.
Arriverons-nous à un point où le défaut humain et la capacité à ressentir le monde de manière irrationnelle deviendront les compétences professionnelles les plus recherchées de la planète ? C'est très possible.
Le défaut humain comme ultime avantage dans la matrice. Franchement, c'est une pensée incroyable sur laquelle méditer. Eh bien, ça clôture notre exploration approfondie de ces sources foisonnantes. Continuez à interroger les systèmes autour de vous, gardez l'esprit critique, et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée analytique.